L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, au Tchad, l'intervention des avions Mirage français contre une colonne rebelle accusée de vouloir déstabiliser le pays. En France, le début d'une enquête monumentale pour recenser les abus sexuels dans l'Église durant les 70 dernières années. En Suisse, on verra pourquoi des organisations non gouvernementales n'ont plus le droit au financement de l'Union européenne. En Belgique, une polémique autour d'une prime pour le logement des étudiants. Et au Canada, on tentera de mieux cerner le syndrome de la Havane, un mal mystérieux qui frappe 14 personnes de retour de Cuba. Voilà pour le programme de l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Belgique, une ministre de l'Environnement a été prise en flagrant délit de mensonge. Entre ses théories du complot et sa démission, finalement, c'est toute une saga qui s'est déroulée cette semaine, Maxime Dumoulin.
Oui, une ministre de l'Environnement, car vous le savez, notre pays compte plusieurs gouvernements et donc plusieurs ministres de l'Environnement. Cette ministre est flamande, c'est Jouke Skovlik. Elle a démissionné mardi. La crédibilité de la ministre flamande de l'Environnement était abîmée après un mensonge au sujet des manifestations pour le climat qui rythment la Belgique depuis plusieurs semaines. Elle prétendait que le mouvement n'était pas spontané, qu'il était infiltré d'après la sûreté de l'État. Mais elle a depuis lors admis que c'était faux, en larmes devant, à partir de journaliste, elle fait son annonce. Je ne pouvais plus communiquer normalement et dans ces circonstances, je me suis laissé aller à un dérapage verbal. J'ai cru à une rumeur non vérifiée. À quelques mois d'importantes élections, son parti tente d'atténuer l'événement. La désormais ex-ministre est toujours pressentie pour être tête de liste dans sa région.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine est la nouvelle ministre québécoise de la condition féminine.
Oui, Isabelle Charest qui a pris ses nouvelles fonctions au début de la semaine. À peine entrée en poste, elle a soulevé la controverse avec une déclaration au sujet du port du hijab. La ministre Charest a dit que le port du voile était une forme d'oppression. Elle a tempéré quelque peu ses propos par la suite, mais une chose est certaine, c'est que la nouvelle ministre s'est rendue compte qu'elle marchait sur un terrain glissant en plein débat sur la laïcité.
L'homme de la semaine au Sénégal s'appelle Abdoulaye Wade. L'ancien président, âgé de 92 ans, est rentré à Dakar jeudi, deux semaines donc avant la présidentielle, prévue le 24 février. Marie-Pierre Olfan.
Oui, depuis qu'il a quitté le pouvoir en 2012, Abdoulaye Wade vit en France. Et s'il a décidé de rentrer, ce n'est pas pour soutenir un candidat, non, mais pour demander le report du scrutin. Il accuse le président sortant d'avoir préparé, fabriqué une élection dans le seul but de se faire réélire. Une élection qui doit se dérouler sans son fils Karim Wade, dont la candidature a été invalidée, ce qui est une des raisons et peut-être la principale du combat d'Abdoulaye Wade aujourd'hui.
En Suisse, le conseiller d'État genevois Mauro Poggia s'attaque frontalement à la société Uber, Pierre-Anne Chauffard.
Oui, avant d'entrer au gouvernement du canton de Genève, cet avocat de formation jouait les chevaliers blancs pour défendre les assurés face aux très puissantes caisses maladie, 5 ans déjà au gouvernement. Et cette fibre ne l'a pas vraiment quitté après s'en être pris au cafetier restaurateur pour protéger les employés et les consommateurs. Voilà que Mauro Poggia tape du poing sur la table avec Uber. Il ne veut pas de libéralisme sauvage à Genève. En clair, soit le service de chauffeur se plie à nos conditions sociales pour les travailleurs, soit il quitte Genève.
En France, le combat d'un agriculteur malade, 12 ans de bataille judiciaire contre le géant Monsanto pour faire reconnaître son intoxication depuis qu'il a inhalé en 2004 les vapeurs d'un puissant herbicide. Depuis, il a été hospitalisé plusieurs fois, il souffre de problèmes neurologiques. Ce céréalier de 55 ans attend donc beaucoup du nouveau procès qui s'est tenu cette semaine en France. En première instance en 2012, puis en appel en 2017, le géant de la chimie agricole a été reconnu responsable de l'intoxication de cet agriculteur français. Il réclame 1 million d'euros, mais Monsanto avait fait appel, d'où cette nouvelle décision judiciaire qui est attendue désormais le 11 avril prochain. Au Tchad, la France a donc prêté main forte ces derniers jours en menant plusieurs raids contre une colonne rebelle, Marie-Pierre Olfan.
Oui, des frappes dimanche dernier, puis mardi et mercredi, la France a effectué une vingtaine de bombardements au total à l'aide de ses Mirage 2000 positionnés au Tchad et au Niger. Paris dit avoir visé une colonne dont l'objectif était de déstabiliser le pays. Une colonne composée d'une cinquantaine de pick-up lourdement armés et qui provenait de Libye, selon Paris. Ce n'est pas les Français qui le disent, mais les frappes Macron visait en fait un convoi de la rébellion de l'UFR, l'Union des Forces de la Résistance, un mouvement mené par un neveu du président tchadien Idriss Déby Itno, un mouvement qui a immédiatement protesté. Youssouf Hamid, représentant de l'UFR en Europe.
Vraiment, ça c'est insensé. C'est un problème interne qui concerne les Tchadiens. Si la France voulait intervenir dans nos problèmes, elle n'a qu'à intervenir pour nous donner la possibilité de s'asseoir pour la réconciliation nationale que nous avons toujours prônée.
L'opposition tchadienne a elle aussi qualifié l'action de la France de faute politique dangereuse, en cause notamment le cadre légal dans lequel Paris a agi, notamment l'utilisation des moyens de la force antiterroriste Barkhane pour stopper l'avancée des rebelles. Le colonel Stégère, porte-parole de l'état-major de l'armée française, s'est défendu en fin de semaine.
Ceci n'est pas dans le cadre de l'opération Barkhane. Le fait qu'on utilise des moyens stationnés à N'Djamena pour des raisons de proximité, réactivité, disponibilité, j'ose croire que tout le monde comprend la logique qui est derrière. Mais c'est bien différent de Barkhane.
À tous ceux qui s'interrogent, Paris répète avoir agi à la demande des autorités tchadiennes. Le Tchad qui a assuré jeudi que toute la colonne rebelle avait été détruite.
La France a entamé cette semaine une enquête monumentale. Il s'agit de lister les abus sexuels dans l'Église durant les 70 dernières années. C'est le travail de la commission Sauvé, du nom du haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé. Il va présider ces 2 années d'enquête. Les témoignages des personnes encore vivantes seront recueillis. L'Église devra ouvrir toutes ses archives et offrir un accès illimité sans jamais avoir son mot à dire sur la tournure de cette enquête. L'Église n'aura aucun droit de regard, confirme le président de cette commission, donc Jean-Marc Sauvé.
Cette commission ne peut en aucun cas être regardée comme une projection de l'Église catholique qui serait destinée d'une certaine manière à couvrir des abus. C'est tout le contraire. Elle est créée pour faire la lumière. Ça peut être douloureux.
Les conclusions de cette enquête seront remises dans 2 ans. Aucun nom ne sera mentionné. Ce n'est pas notre rôle, explique encore le président de cette commission, qui ne veut pas se substituer à la justice. Le rapport recensera le nombre d'abus sexuels et les manquements au sein de l'Église. Et un autre chapitre ne manquera pas de faire quelques recommandations. En Suisse, des organisations non gouvernementales n'ont plus le droit au financement de l'Union européenne. Pour quelle raison, Pierre-Henri Chauffard ?
10 ONG ont reçu cette désagréable nouvelle juste avant Noël, révélée cette semaine par les médias. Le courrier de la commission précise « Nos bases légales ne permettent pas de poursuivre notre collaboration ». Bruxelles a en fait revu les relations avec les États tiers dans le domaine de l'aide humanitaire, mais dément tout lien avec le Brexit ou les difficiles négociations avec la Suisse. Président de Caritas, Hugo Fazel est estomaqué. Il en appelle aux politiques et envisage même des mesures de rétorsion.
On doit clarifier avec le département de quelle manière on veut procéder. Et là, il y a différents aspects qu'il faut discuter. Si la Suisse n'a plus accès, alors c'est aussi la DDC qui doit réfléchir de quelle manière elle veut continuer.
La DDC, la Direction Suisse du Développement, elle réagit avec prudence, sans cacher sa surprise. Elle va étudier la question en collaboration avec ses ONG, mais n'en dit pas plus sur d'hypothétiques coupes dans les subsides octroyés à des organisations humanitaires européennes. Laurent Verly, membre de la commission de politique extérieure du Parlement, ne croit pas à l'épreuve de force.
Je crois que c'est pas la loi du talion, c'est-à-dire tu m'as fait ça, je vais te faire la même chose. C'est pas avec ça qu'on va avancer correctement dans une relation où nous ne sommes pas tout à fait de la même taille que l'Union européenne et que dans ce sens-là, des mesures que nous prendrions n'auront pas le même effet que celles que l'Union européenne pourrait prendre.
De son côté, l'organisme européen qui soutenait les programmes suisses espère aussi que la base légale sera adaptée pour reprendre cette collaboration.
En Belgique, voilà une prime qui fait polémique. 1000 euros par an en faveur des jeunes locataires d'un logement pour des étudiants situés loin de leur domicile. Sauf que certains en sont exclus pour une question de région, Maxime Dumoulin.
Car cette prime ne s'applique que en Wallonie, dans le sud du pays. Si l'étudiant habite dans la province de Luxembourg, mais que sa haute école ou université se trouve en région bruxelloise, elle vous passe sous le nez. Pas de prime non plus pour les Bruxellois qui feraient le choix d'aller étudier en Wallonie à plus d'1 heure en voiture ou aux heures de pointe. C'est le critère retenu dans le texte du gouvernement wallon. Un texte déjà critiqué par les étudiants eux-mêmes. La Fédération des étudiants francophones, représentée par Maxime Mikils, estime que tous les francophones devraient en bénéficier.
On va créer de l'inégalité entre les étudiants wallons et les étudiants bruxellois, les étudiants qui sont à Bruxelles, qui doivent aller étudier la médecine vétérinaire à Liège, etc., etc. On est dans un seul réseau, on est dans une seule entité d'enseignement supérieur, la communauté française. C'est important de pouvoir garder une unicité de règles et de conditions étudiantes là-dedans.
Alors de son côté, la ministre wallonne du logement, la libérale Valérie Debut, ne s'oppose pas à une extension de la mesure aux bruxellois, mais dit-elle, cela doit passer par un accord de coopération entre les deux régions. Bref, ce n'est pas gagné. Encore un bel exemple de deux régions qui ne se parlent pas dans notre plat pays.
Au Canada, un groupe de 14 personnes intente une poursuite contre le gouvernement fédéral. Et ce qui est inédit dans cette histoire, c'est que les plaignants sont des diplomates, leurs conjoints et leurs enfants. Tous souffrent d'un mal mystérieux après avoir été basés à Cuba. Le rappel des faits avec vous, Benoît Audet.
Oui, ces 14 personnes sont maintenant de retour au Canada et elles souffrent toutes d'un mal mystérieux, comme vous le disiez. C'est un mal qu'on appelle le syndrome de la Havane. Tous ces gens souffrent de symptômes qui s'apparentent à ceux d'une commotion cérébrale, donc des maux de tête et des pertes de mémoire, entre autres. On a même diagnostiqué des lésions cérébrales chez les victimes qui ont depuis été rapatriées au Canada. Bref, les plaignants estiment qu'Ottawa n'a pas pris leur souffrance au sérieux et c'est pourquoi ils intentent une poursuite de 28 millions de dollars.
Et comment réagit le gouvernement fédéral?
Avec prudence, puisque l'affaire est devant les tribunaux, voici la réaction de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.
La santé et la sécurité de nos diplomates à l'étranger est une priorité pour notre gouvernement. C'est une chose que je prends très, très sérieux. J'ai beaucoup de sympathie pour ces diplomates canadiens et ces familles.
Le syndrome de la Havane a aussi affecté des diplomates américains et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui est à l'origine de ces lésions au cerveau.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.